Christophe fait partie du laboratoire Editem. Il est enseignant-chercheur à l'université Savoie-Mont-Blanc. Il doit être bien connu sur la place de Chambéry. Et il va nous aborder la thématique, le thème qui doit s'afficher, cultures urbaines, cultures montagnardes, l'hybridation jusqu'où ? Merci Christophe.
Merci. Le problème n'est pas d'être bien connu, c'est d'être bien connu pour des bonnes raisons. C'est ça, c'est qui est compliqué. On est sur une journée avec un titre qui est très stimulant, sur lequel on n'est pas beaucoup revenu depuis ce matin, mais la notion d'écosystème équitable est assez compliquée d'interroger la qualité morale d'un écosystème, hein, mais même avec un tiret dont on ne sait pas exactement quel est le statut, mais en tout cas c'est intéressant de se poser la question. Et au moins dans les relations entre ville et montagne, peut-être de la reformuler en termes d'équilibre des échanges entre la ville, entre les villes et les montagnes, et peut-être même, au-delà de l'équilibre, en termes de symétrie. A contrario, que serait l'inverse d'un écosystème équitable, ce serait peut-être un phénomène d'acculturation qui fonctionnerait à sens unique, hein, des formes de concurrence qui seraient un petit peu destructrices d'un côté ou de l'autre, voire, comme cela a déjà été dit dans le passé, je n'innove pas, une forme de colonisation d'un territoire par un autre qui serait l'opposé, en quelque sorte, de l'écosystème équitable. Alors, dans cette brève causerie, je vais entendre culture, c'est un terme qui est un petit peu vaste, hein, je vais surtout l'aborder à travers des exemples touristiques, des pratiques culturelles et sportives qui sont en général associées aux espaces touristiques, mais des fois, je déborderai un petit peu, ça n'est pas un exposé savant extrêmement construit, mais c'est une petite réflexion autour de quelques images que j'ai sélectionnées pour cet exposé. Dans un premier temps, il faut quand même être attentif à ce qu'on met sous ces catégories de villes et de montagnes, parce que peut-être ce sont des catégories qui peuvent nous paraître assez évidentes, mais qu'il faut quand même un tout petit peu questionner. On a l'impression que dans les Alpes, en Europe, on voit assez bien ce que sont les villes, ce que sont les montagnes, comme deux catégories d'espaces assez faciles à identifier l'une par rapport à l'autre, même s'il y a des nuances. Mais ça serait beaucoup moins le cas dans d'autres régions du monde. Hein. On s'était amusé avec Xavier Bernier à dessiner une carte des capitales qui étaient situées à plus de 1000 mètres d'altitude. Je ne dis pas que c'est un critère de montagne, hein, mais enfin, à plus de 1000 mètres, à plus de 2000 mètres. Bon, on s'aperçoit que, évidemment, en Amérique centrale, dans l'Amérique andine, en Afrique orientale, la ville, et y compris la grande ville, hein, je ne parle pas de petits chefs-lieux de district, hein, mais la grande ville, elle est souvent montagnarde, y compris à des altitudes qui sont assez importantes, au-delà de 2000 mètres. Donc c'est sûr que la question ne serait pas posée dans les mêmes termes que la façon dont on se la pose ici aujourd'hui. Et dans un autre exemple qu'on avait pris également avec Xavier Bernier, des pratiques que nous, on perçoit comme étant liées à la moyenne montagne, le sont pas forcément partout dans le monde. On avait pris les courses qui constituent le circuit World Lopet, c'est-à-dire les courses de ski de fond de longue distance, en Amérique du Nord et en Russie, c'est des courses qui se courent entre 100, 200, 300 mètres d'altitude. Hein, l'épreuve de la World Lopet à proximité de Moscou, ça se court, je crois, entre 70 et 110 mètres d'altitude. Donc on a des catégories montagne et ville qui nous appartiennent, qui sont à peu près pertinentes chez nous, là, dans les Alpes du Nord, mais qu'on ne peut pas exporter comme ça, sans y réfléchir, partout à travers le monde. Donc cette réflexion sur l'hybridation, elle doit quand même prendre en compte un petit peu ces réflexions préalables. Et puis, ça a déjà été un petit peu dit ce matin, l'hybridation, elle fait rentrer en jeu également une notion de complémentarité des fonctions. Alors, elle ne se résume pas à ça. Mais, par exemple, j'ai essayé de remettre simplement sur une carte le siège des fédérations nationales de ski pour les pays alpins. Donc, par définition, pour aller vite, c'est plutôt des fonctions urbaines, hein, c'est des fonctions d'organisation. Et on voit que les villes dans lesquelles sont localisées ces fédérations nationales de ski sont, pour la France et l'Autriche, des villes à l'intérieur de l'espace dit convention alpine, alors que pour les autres pays, ce sont des métropoles plutôt périphériques, hein, type Munich et Milan. Et donc, on voit que les rapports, là, entre une partie de l'activité touristique de la montagne et puis la ville, va s'établir éventuellement de façon un petit peu différente, hein, même si l'horizon au sud de Munich, il est barré par les Carwendel, il n'est pas complètement extérieur à la montagne, mais enfin, en même temps, Munich est une ville vraiment de l'avant-pays alpin. Donc, cette notion d'hybridation entre ville et montagne, par rapport à des pratiques touristiques, sportives, culturelles au sens large, elle n'est pas nouvelle. D'une certaine façon, elle est même liée à l'histoire même du tourisme en montagne. La station touristique, pour qu'elle puisse fonctionner à un moment donné, c'est nécessairement une transposition de la vie urbaine sur le lieu de destination. Des équipements emblématiques, l'hôtel, le casino, la promenade, sont dans un très très grand nombre de stations touristiques des lieux de cette urbanité transplantée sur le lieu de destination. Et ça vaut pour des stations littorales, ça vaut pour Deauville ou pour Biarritz, et ça vaut pour des stations de montagne, parce que la destination touristique, souvent, il y a des contre-exemples, mais elle est d'abord un lieu qui se caractérise par son isolement, et pour faire venir des clientèles, eh bien, il y a des réticences à lever, et entre autres, il faut lui redonner des cadres dans lesquels cette clientèle soit relativement confortable, on dirait, et de retrouver des éléments de l'urbanité que ces clientèles ont laissé sur leur lieu de résidence habituel. Donc on a réussi à faire venir des gens en montagne en leur proposant des référents urbains, un cadre, des services. Et ça n'est pas du tout nouveau, puisque quand on avait travaillé sur Pralognan, on avait retrouvé cette annonce avant la guerre de 1914, donc au tout début du XXe siècle, que quand vous montiez au refuge du col de la Vanoise, le refuge était relié par une ligne téléphonique, et donc vous pouviez consulter les cours de bourse à Paris. Et donc ça, c'est au tout début du XXe siècle. Donc l'idée de est-ce que l'Internet passe, est-ce qu'on a le haut débit et tout, c'est une idée très très ancienne, et d'hybrider comme ça une destination montagnarde avec des services de type urbain. Alors cette hybridation a fonctionné plus ou moins dans les deux sens, que je vais essayer d'illustrer par quelques images. Et donc la montagne touristique a beaucoup emprunté à l'univers de la ville. Elle a sans cesse acclimaté de l'urbanité. Et entre autres, je pense qu'il y a un événement qui, de ce point de vue-là, était vraiment emblématique, qui a duré 20 ans, entre 1973 et 1993, c'est le festival du film fantastique d'Avoria, où il y a eu vraiment transplantation d'une vie, alors on peut dire culturelle, artistique, show business, enfin, différents termes pour évoquer ça, dans une station d'altitude qui venait juste de sortir de terre, avec effectivement des personnalités, on va dire, plutôt parisiennes et nocturnes, que l'on trouvait dans les rues d'Avoria. Cette image a été beaucoup, beaucoup diffusée. Elle est assez emblématique d'une forme de décalage culturel et donc en même temps d'association de ces deux univers qui sont très, très différents. Cette photo prise en janvier 1976, qui trouve des prolongements actuels sur des phénomènes qui ont été très, très médiatisés. Autour des ce qu'on appelle les folies douces, les établissements festifs qui fonctionnent maintenant dans un certain nombre de stations de sport d'hiver, plutôt aux heures de l'après-midi et éventuellement avec des prolongements en soirée, qui poussent l'hybridation à la fois avec des loisirs urbains, mais aussi avec des loisirs qui viennent plutôt d'autres types de destinations touristiques. C'est-à-dire que là, c'est une transplantation d'Ibiza dans une station de Tarentaise. Donc là, on est vraiment dans une hybridation qui va relativement loin et qui, depuis quelques années, rencontre un assez grand succès. Autre illustration qui va à peu près dans le même sens, en m'appuyant sur les travaux de Lise Picret, on a cartographié certaines enseignes de boutiques de luxe dans des stations alpines. Donc là, on est resté plutôt dans du prêt-à-porter, parce qu'on peut aussi parler de l'horlogerie, de la bijouterie. Enfin, on pourrait étendre cette étude. Et donc, on voit qu'on a des maisons donc de haute couture ou d'accessoires de mode qui sont installées dans certaines stations, évidemment pas toutes, et qui accompagnent la montée en gamme des stations qui vont rechercher des clientèles urbaines, fortunées, solvables, internationales. Et donc là, les stations se positionnent, en tout cas ces stations-là qui sont documentées, se positionnent comme des satellites de l'archipel métropolitain mondial. En altitude, en reproduisant certains des codes qu'on va trouver à Londres, à Paris ou à Zurich. Et pour terminer sur ce plan-là, une photo prise au mois de mai 2013 dans le Tyrol, où il restait des stigmates de l'hiver passé, et donc un constructeur de voitures bavarois qui expose un modèle au pied d'un télésiège. Donc là, si avec un peu de chance, les gens ont 5 minutes ou 10 minutes de file d'attente, eh ben, ils vont avoir les BMW sous les yeux, au pied des pistes, sur un podium. Donc voilà, là, on a vraiment hybridation de paysages publicitaires qui sont plutôt urbains et qu'on trouve transplantés sur les lieux des pratiques sportives. Même si chaque exemple pris individuellement peut paraître un petit peu anecdotique, ce dont je conviens. Alors cette hybridation fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que la montagne diffuse un certain nombre d'innovations que la ville lui emprunte. Ce matin, on a évoqué la question des remontées mécaniques, l'acclimatation en ville des remontées mécaniques, c'est-à-dire d'une innovation technique qui est issue de la montagne. C'est quelque chose dont on parle depuis longtemps, qui connaît des développements relativement lents par rapport au potentiel qui est identifié. Mais là, typiquement, un téléphérique qui relie Roosevelt Island à New York. Également sur la question des sports d'hiver ou des techniques issues des sports d'hiver, la fameuse piste de la Sarra à Lyon qui avait été inaugurée en 1964. Donc là, c'est une photo qui date de l'époque de l'inauguration sur un revêtement spécial qui avait été mis en place avec une remontée mécanique et qui a fonctionné jusqu'en 1975. J'aime bien cette photo, puis j'aime bien parler de ça parce que c'est la préhistoire du ski-dôme de Dubaï, dans un autre contexte. Mais l'idée de faire du ski en dehors de la montagne, donc là, il y a un peu de pente, mais en revanche, il n'y a pas de neige, ça a plus ou moins fonctionné pendant une dizaine d'années. Alors, puisque Bernard nous a mis sur la piste de la Belgique, j'enchaîne. Là aussi, c'est une petite carte qu'on s'était beaucoup, beaucoup amusé à faire avec Xavier Bernier, de se poser la question de où est-ce qu'on peut skier en Belgique. Et on avait été les premiers surpris, puisqu'on a à la fois des stations de ski un petit peu équivalentes à ce qu'on connaît en plus petit dans les Ardennes, mais également des skidômes, donc du ski situation couverte, et puis des sites extérieurs qui sont souvent des sites miniers ou des anciennes carrières qui ont été équipés, si bien qu'au total, vous voyez, il y a plus d'une quinzaine de sites de ski alpin ouverts en Belgique. Donc là, dans les pratiques, l'attractivité de la montagne par rapport à ce que les gens peuvent faire dans leur bassin de vie, ça interpelle également. Et pour terminer dans cette lancée-là, quelque chose qui est assez spectaculaire, je ne sais pas si vous avez vu des fois des vidéos, le patin de descente avec des courses qui sont organisées dans plusieurs villes nord-américaines et du nord de l'Europe, ici dans la vieille ville de Québec. Alors le patin de descente, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, à titre de curiosité. Les historiens des sports d'hiver nous disent que ça a existé au début du XXe siècle dans les Alpes. Il y a des pistes de descente qui étaient englacées. Je ne sais pas comment les gens ils devaient se faire mal aux fesses quand même. Mais bon, voilà, cette pratique a été abandonnée. Il y a eu une très longue éclipse. Et elle est réapparue très récemment, il y a quelques années, en tant non pas que pratique, mais plutôt que spectacle sportif, commercialisé par une marque commerciale. Et de ce que j'ai pu trouver comme indication, c'est un spectacle qui est strictement urbain. Donc on en trouve en Suède, on en trouve au Canada, aux États-Unis, mais a priori pas dans le cadre de stations de montagne. Et donc là, il y a eu une sorte de captation d'une activité qui, au départ, était plutôt montagnarde, au profit des villes, ce qui peut aussi alimenter la discussion sur l'équité. On a donc une épaisseur historique assez importante de cette hybridation. Il faudrait une recherche beaucoup plus poussée que ce que j'ai fait aujourd'hui pour essayer d'évaluer, par exemple, depuis le début du XXe siècle, les différents moments de cette hybridation, à quel moment elle profite plus aux villes, à quel moment elle profite plus à la montagne. Ça, c'est un travail, je ne sais pas si on pourrait le faire, mais qui resterait à faire, qui se traduit à la fois par une hybridation des espaces, par exemple, l'urbanisation des stations d'altitude, urbanisation des pratiques, j'ai donné quelques exemples dans les diapositives précédentes, et puis également, j'en ai pas beaucoup parlé, mais hybridation des temporalités jour, nuit, dans quelle mesure les stations de montagne, elles essayent d'adopter un modèle urbain de fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc ça, ça fait, même s'il y a beaucoup de freins parmi les acteurs, mais ça, c'est une des dimensions de cette hybridation. Ce qui amène, alors là je suis vraiment dans le prolongement de la réflexion de Bernard Pecker, ce qui amène à se reposer à la question assez classique des ressources et donc de leur caractère effectivement plus ou moins spécifique, plus ou moins générique, voire ubiquiste, et surtout de l'évolution de ces caractères, puisque ces caractères, ce qui est spécifique à un moment donné, peut devenir générique plus tard parce qu'il y a eu des innovations technologiques ou une modification des sensibilités, des attentes. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que cette hybridation, elle interroge sur ce qui fait la spécificité ou le caractère générique des ressources. Alors, je termine sur l'interrogation, parce qu'entre autres, on n'a pas la réponse à la question, mais des initiatives qu'on a vues et qu'on voit actuellement se développer. La candidature de Munich pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2018, donc même si de fait, ça n'est pas la ville qui a été retenue, et la candidature de Pékin, je ne sais pas si tout le monde est au courant, pour les Jeux Olympiques d'hiver de 2022. Donc ça, c'est assez intéressant par rapport à l'idée qu'on se fait d'Albertville, de Lillehammer. Bon, on n'est pas exactement dans les mêmes catégories de villes. Hein. Mais surtout, bon, d'une part, ce n'est pas des villes qui sont a priori connotées montagne. Hein. C'est encore plus spectaculaire, je pense, dans le cas de Munich et de Pékin, parce que, de fait, ce sont des villes qui, historiquement, ont déjà reçu les Jeux Olympiques d'été. Et donc ces candidatures-là, forcément, elles nous interpellent beaucoup sur ce qu'est la montagne, ce qu'est la spécificité des activités. Si, contrairement, parce que je pense que si on avait fait le pari il y a 30 ans, personne ne pensait à ce genre de choses. Hein. Donc, mais si on a des villes qui sont capables d'organiser à 20 ans d'intervalle les Jeux Olympiques d'été, les Jeux Olympiques d'hiver, je pense que dans l'univers des représentations, ça modifie beaucoup de choses par rapport aux repères qu'on pouvait avoir jusqu'à présent, quelle que soit l'issue des pronostics de nomination des villes pour les événements sportifs sur lesquels je ne reviendrai pas. Je vous remercie. Thank you.